RFI, 7h à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Roeb.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Diane Berger.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et tous.
Et on débute à Alep, en Syrie.
Deux quartiers kurdes sont censés être replacés sous l'autorité de Damas, mais la transition ne se fait pas sans tension, vous l'entendrez. Le Hamas ne veut pas du cessez-le-feu à Gaza proposé par les États-Unis, un projet d'accord validé par Israël, mais qui ne convient pas au mouvement islamiste. Le gouvernement israélien a quant à lui annoncé la création de 22 colonies supplémentaires en Cisjordanie occupée. Emmanuel Macron est à Singapour pour l'ouverture du sommet de Shangri-La, la grand-messe des questions de défense et de sécurité en Asie. Nous reviendrons également dans ce journal sur la nomination de Sidi Oultta à la tête de la BAD, la Banque africaine de développement, et la fin de la carrière de Richard Gasquet, le tennisman français, a joué son dernier match en compétition hier à Roland-Garros, une défaite qui n'efface pas 23 ans de carrière.
Quasiment 6 mois après la chute de Bachar al-Assad en Syrie, la transition patine sur la question kurde.
Oui, mais d'abord, aussi cette information qui nous vient de Syrie. L'État islamique a revendiqué une attaque contre les nouvelles autorités. Une mine terrestre qui a explosé contre un véhicule des forces armées. Elle a fait 1 mort et 3 blessés. C'est la première attaque du groupe terroriste depuis la chute de l'ancien président Bachar al-Assad. Toujours en Syrie, donc, la transition patine sur la question kurde. Il y a 1 mois, un accord avait été trouvé pour replacer les quartiers kurdes d'Ashrafieh et de Sheikh Massoud à Alep, sous l'autorité de Damas. Une transformation qui fait office de laboratoire pour ce qui pourrait arriver au nord-est de la Syrie. Mais sur place, le nouveau pouvoir syrien n'inspire pas confiance. Notre correspondante Manon Chaplin a pu le constater.
Les uniformes de la sécurité générale des nouvelles autorités de Damas font désormais corps avec les camouflages des agents kurdes. Sur les 7 checkpoints qui entourent les 2 quartiers kurdes d'Alep, les contrôles se font désormais de manière conjointe. Mohamed Ralil coordonne les forces de sécurité kurdes.
Jusqu'à présent, tout se passe bien. Nous faisons notre devoir tous ensemble. Grâce à cela, nos quartiers sont beaucoup plus sûrs qu'avant. On se sent en sécurité, l'atmosphère y est meilleure.
Longtemps sous contrôle des factions armées kurdes, le nouveau gouvernement de Damas a repris en avril l'autorité sur ces 2 quartiers. Les institutions autonomes sont conservées ainsi que certaines particularités, mais des points de négociation sont aujourd'hui bloqués, comme l'échange de prisonniers, explique Nouri Sheko, coprésident du conseil local.
Le nouveau gouvernement est censé nous rendre l'ensemble de nos détenus. Or, la plupart se trouvent aujourd'hui dans les prisons turques. Le pouvoir ne peut rien faire. Il est trop faible et ne peut pas désobéir aux ordres d'Ankara.
Parmi les habitants, de nombreux déplacés d'Afrin tombés aux mains des forces pro-turques en 2018. Le retour des déplacés négociés par les forces démocratiques syriennes reste toutefois compliqué. Mariam n'a jamais pu rentrer chez elle.
Près de chez moi, il y a encore la présence de mercenaires pro-turcs. Ils imposent des taxes à tous les déplacés qui souhaitent récupérer leur maison.
Depuis avril, les tirs de snipers kurdes, autrefois postés aux alentours pour défendre les 2 quartiers, ont cessé. Ces derniers ont tué près de 65 civils entre novembre et janvier. À Alep, Manon Chaplin, RFI.
À la une également, la perspective d'une trêve à Gaza qui s'éloigne.
Israël a accepté hier une proposition américaine de cesser le feu, mais elle ne convient pas au Hamas. Le mouvement islamiste estime qu'elle ne répond pas aux demandes du peuple palestinien, notamment, je cite, « l'arrêt de la guerre et de la famine dans l'enclave ». Dans le même temps, Israël a aussi annoncé hier la création de 22 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée. Pour Hasni Abidi, directeur du Centre d'études du monde arabe et méditerranéen, l'accélération de la colonisation israélienne sape les efforts pour une solution à 2 États.
Ces décisions vont rendre plus compliqué, je dirais même anéantissent, les projets de la solution à 2 États. Et c'est une opération qui est voulue par l'extrême droite, par le gouvernement israélien, par une grande partie de la société israélienne qui malheureusement s'est droitisée. Et évidemment, les perspectives de paix, on les voit aujourd'hui s'affaiblir de jour en jour. Elles vont rendre aussi ces décisions compliquées. La conférence de mois de juin que va organiser le président français avec l'Arabie Saoudite, la coalition en faveur de la solution à 2 États, mais surtout à l'intérieur, ils vont radicaliser une partie donc des Palestiniens en Cisjordanie, une partie de l'autorité palestinienne, de l'OLP, tous ceux considérés par la communauté internationale comme des alliés de cette communauté internationale qui vont voir finalement donc les territoires palestiniens et notamment en Cisjordanie sous une nouvelle occupation.
Et puis nous reviendrons sur RFI sur la question palestinienne avec notre invité, l'historien Jean-Pierre Filu. Ce sera à 6h20, temps universel.
Emmanuel Macron veut, lui, durcir la position contre Israël s'il n'y a pas d'ouverture humanitaire.
Il l'a déclaré il y a quelques minutes devant des journalistes à Singapour. Singapour où le président français termine son voyage en Asie. Après des échanges avec le dirigeant de la cité, État, il doit prononcer le discours d'ouverture du dialogue de Shangri-La, la grand-messe sur les questions de défense et de sécurité en Asie. Bonjour Nicolas Roca.
Bonjour Diane.
Vous êtes à Singapour pour RFI, le sommet réunit la plupart des ministres des armées de la région. Mais cette année, Nicolas, il manque la Chine.
Oui, et pourtant le dialogue de Shangri-La, c'est une opportunité rare pour une discussion entre les armées des deux plus grandes puissances mondiales. Cette année, l'absence confirmée de Tong Tun, le ministre des armées chinois, plane au-dessus de la réunion et Pékin n'envoie pas d'émissaire de haut niveau. Signe de désintérêt pour certains, d'inquiétude sur la position américaine pour d'autres, car le secrétaire à la défense des États-Unis, Pete Hegseth, lui sera bien là. Son discours, samedi matin, est très attendu alors qu'une incertitude plane sur la politique sécuritaire américaine en Asie.
Et alors, que va porter Emmanuel Macron en ouverture du dialogue de Shangri-La ce soir?
Eh bien, on vient d'en avoir une première idée il y a quelques minutes lors de la conférence de presse conjointe qu'il a menée avec le Premier ministre singapourien. Il a posé, vous l'avez dit, à nouveau les conditions d'une reconnaissance de la Palestine et a légèrement durci le ton face à Israël qui plonge Gaza dans une famine généralisée. Il a également invité les États-Unis à tenir leur engagement à sanctionner la Russie si elle n'agit pas concrètement pour une paix en Ukraine, estimant même qu'il s'agissait d'un test de crédibilité pour Washington. À Singapour, Emmanuel Macron cherche à rassurer sur les capacités de défense européenne et dresse un parallèle entre le conflit en Ukraine et les différents points de tension en Asie, la Corée du Nord qui envoie ses hommes soutenir les troupes de Vladimir Poutine, les tensions en mer de Chine méridionale et puis une possible future invasion de Taïwan par Xi Jinping.
Nicolas Roca en direct de Singapour pour RFI.
Et ce sommet de Shangri-La, on en reparle juste après ce journal avec Carlotta Morteo pour À la Une en Asie.
Les droits de douane de l'administration Trump sont finalement maintenus provisoirement le temps d'examiner le fond du dossier. Décision d'une cour d'appel américaine en urgence moins de 24 heures après une première décision du tribunal de commerce international des États-Unis qualifiée par le président américain d'horrible et de politique.
Un nouveau président à la tête de la BAD, la Banque africaine de développement.
L'économiste mauritanien Sidi Ouattara a été élu hier jeudi à Abidjan en marge de l'assemblée annuelle de l'institution panafricaine. Il succède ainsi au Nigérian Akinwumi Adesina en poste depuis 10 ans. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Abdoulaziz Diallo, a suivi cette élection pour RFI.
Des cris de joie, des applaudissements. La délégation mauritanienne célèbre l'élection de Sidi Ouattara. L'économiste de 60 ans l'emporte au troisième tour avec plus de 76% des voix des pays africains et 72% des non-régionaux. Ancien ministre de l'économie, il devient le 9e président de la BAD pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ému, il s'adresse à ses pairs.
Je vous remercie, mesdames et messieurs les gouverneurs, pour cette confiance dont je mesure la responsabilité et le devoir qui l'accompagne.
Sidi Ouattara connaît bien le développement africain. Pendant 10 ans, il a dirigé la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Parmi les soutiens de sa candidature, la Côte d'Ivoire. La ministre de l'économie, Nyalé Kaba, salue un profil expérimenté.
Il a la particularité d'avoir occupé les postes de ceux qui sont ses clients, c'est-à-dire nous les ministres qui avons besoin de la banque pour accompagner les actions du gouvernement. Il a développé une expertise à nous écouter et à s'adapter à nos besoins.
Sidi Ouattara prendra officiellement ses fonctions d'ici 3 mois. Dans un contexte économique incertain, les États-Unis envisagent de retirer 500 millions de dollars de leur contribution au fonds de la BAD, destiné aux pays les plus pauvres du continent. Abdelaziz Diallo, Abidjan. RFI.
En sport maintenant, c'est un grand nom du tennis français qui prend sa retraite.
À bientôt 39 ans, Richard Gasquet fait ses adieux aux compétitions. Éliminé hier après-midi au tournoi de Roland-Garros par le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner. Une cérémonie a eu lieu dans la foulée sur le court central Philippe Châtrier pour rendre hommage à une carrière longue de 23 ans qui a fait de lui le 3e français le plus titré de l'histoire. Éric Mamrut.
Out. Sure. Cette match, Sinner. C'est fini, le petit Mozart du tennis a joué sa dernière partition face au maestro italien Yannick Sinner et sur sa scène préférée du cours central de Roland-Garros, le tout sous les chaleureux applaudissements des supporters français. Bref, une conclusion sans fausse note. Richard Gasquet.
Je ne peux pas rêver mieux pour moi de m'arrêter sur ce cours incroyable, le plus beau cours du monde. Vous m'avez fait vivre des émotions qui sont extraordinaires. Forcément, maintenant, le tennis professionnel est fini avec moi, mais voilà, c'est pas un adieu, c'est un au revoir. Je viendrai avec vous dans les tribunes. La passion du tennis, quoi qu'il arrive, elle restera, que ce soit sur le court ou en dehors, elle sera toujours là jusqu'à la fin de ma vie. Vive le tennis, vive la France, et à très très vite. Merci.
Entamée en 2002, la symphonie de Richard Gasquet s'achève avec 16 titres décrochés, 3 demi-finales de Grand Chelem et une Coupe Davis. Le Biterrois qui a également gagné le cœur du public.
Toute mon enfance, je l'ai suivi, il m'a beaucoup inspiré, c'est vraiment un modèle. C'est quelqu'un de vraiment touchant et d'émouvant et il a fait une grande carrière.
Ce joueur-là, il a envie du tennis, il donne envie au tennis. Il joue avec les tripes et c'est extraordinaire.
J'avoue que je me suis un peu inspiré de son revers à une main. C'est un très beau geste, je me trouve élégant et c'est pour ça que j'ai essayé de le reproduire, mais malheureusement j'en suis très très loin. C'était sa
dernière séance. Un revers de magicien qui va sacrément manquer au tennis.
Au tournoi de Roland-Garros, toujours, un autre Français éliminé hier soir, c'est Gaël Monfils, battu par le numéro 5 mondial, le Britannique Jack Draper.
Voilà, et on entendait Eddie Mitchell à l'instant. On passe à quelque chose de plus métal, Diane, avec la chanteuse franco-allemande Sun.
L'un des nouveaux visages du rock français. L'artiste vient de sortir Crystal Metal, son premier album, avec un style bien à elle, José Marino. Cela s'appelle la Brutal Pop.
Chanteuse incandescente et guitariste furieuse, la franco-allemande Sun crée la Brutal Pop, une collision entre pop mélodique et métal abrasif. Un cri d'amour et de colère, né après la mort de son père quand elle était enfant. Dans son premier album, Crystal Metal, cette trentenaire transforme le deuil en rage de vivre, chante la joie, la colère, l'amour et l'absence. Des émotions brutes sans filtre qui enflamment les scènes du monde entier. En 2 ans, Sun a donné 180 concerts dans 18 pays, allant jusqu'à ouvrir pour Metallica au Stade de France. Son disque Crystal Metal résonne comme une déflagration intime et universelle entre chaos et beauté.
La chanteuse Sun, que l'on retrouvera dans le choix musical du jour sur RFI, ce sera juste avant 10h, heure de Paris.
8h, temps universel. Merci beaucoup Diane Berger, à tout à l'heure. Vendredi 30 mai 2025, bienvenue à vous, RFI Matin, 3 heures d'information. Et à la une aujourd'hui, la bande de Gaza et cette proposition américaine de cesser le feu acceptée par Israël hier. Le Hamas, lui, se dit insatisfait et estime que le texte ne répond pas à ses demandes. Le point avec Michel Paul à Jérusalem dans le journal de 6h, temps universel, sur le contenu de ce projet de trêve de 60 jours. L'actualité qui nous emmène aussi en Chine ce matin, alors que le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, promet de révoquer des visas d'étudiants chinois. Vous entendrez les réactions à Pékin au micro de Cléa Broders. On parle aussi de la République démocratique du Congo et de Joseph Kabila, l'ancien président revenu à Goma en début de semaine, ville de l'Est de la RDC, sous le contrôle de l'AFC M23. On part aussi en Pologne, il y a 2 jours du second tour de l'élection présidentielle. C'est notre grand dossier à 7h, temps universel. RFI Matin aujourd'hui, c'est aussi un avant-goût de ce qui vous attend demain soir sur la Radio du Monde. La finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter Milan. Parole de supporters milanais dans notre reportage international. On parle aussi du business du Paris Saint-Germain dans Aujourd'hui l'économie avec Stéphane Genest et le journal des sports. C'est dans tout juste une demi-heure. Mais pour commencer ce matin, direction Singapour, à la une en Asie et le Shangri-La Dialogue, aujourd'hui forum annuel où tout le Gotha militaire de la région Indo-Pacifique se réunit, représentant des armées, entreprises de l'armement, ministres de la défense. Une quarantaine d'États sont représentés, dont les États-Unis, grand allié militaire de plusieurs pays de la région, mais aussi la France, la seule nation européenne disposant de territoires ultramarins et de forces permanentes en Asie. Bonjour Carlotta Morteo.
Bonjour.
Ce sommet a lieu dans un contexte de rivalité croissante entre les États-Unis et la Chine.
Oui, il y a bien évidemment la guerre commerciale lancée par Donald Trump qui déstabilise toute la région. Il y a aussi une agressivité croissante de la part de la puissance chinoise vis-à-vis de Taïwan, mais aussi en mer de Chine, où Pékin viole régulièrement le droit international de la mer, sans compter son soutien au régime nucléaire nord-coréen ou à la junte birmane. Alors pris en étau dans la lutte d'influence des deux grands, les pays d'Asie du Sud-Est sont d'autant plus fébriles qu'ils doutent de la fiabilité du partenaire historique, les États-Unis, et des méthodes de la nouvelle administration Trump. Écoutez Éric Frécon, chercheur à l'IRASEC, un institut basé à Bangkok.
Il y avait une expression qui revenait souvent dans la région, c'est les lapins pris dans les phares, c'est-à-dire avec l'administration Trump, ceux qui attendaient beaucoup des États-Unis étaient déboussolés, ne sachant plus vers qui se tourner. Puis il y en a d'autres, de toute façon, depuis AUKUS, donc cet accord-là avec Australie, Royaume-Uni et États-Unis, si de façade les gouvernements sud-est asiatiques l'accueillaient de façon très aimable et polie, sous le manteau et en off, beaucoup disaient que ça faisait une alliance de plus, ça accentuait la bipolarisation et avec ça ils n'étaient pas à l'aise.
Malaise, incertitude, la prise de parole du secrétaire de la défense américain Pete Hegseth, souvent qualifié de faucon anti-chinois, va être écoutée très attentivement, d'autant plus que Tang Yun, le ministre de la défense chinois, lui ne participera pas cette année. C'est une occasion manquée, selon Éric Frécon.
Il y a plutôt un temps fort là pour la Chine parce qu'il y a Xi Jinping qui allait visiter des pays de la région, Vietnam, etc., dans le contexte de hausse des tarifs douaniers et justement pour dire, bah, tiens, si Trump vous lâche ou si les États-Unis vous délaissent en coupant les fonds USAID, etc., bah, nous, on est encore là.
En revanche, Carlotta, c'est inédit, un chef d'État européen est invité pour la première fois, Emmanuel Macron, le président français qui clôture sa tournée au Vietnam et en Indonésie et qui va prononcer le discours d'ouverture de ce Shangri-La Dialogue.
Tout à fait. Et c'est un signal politique remarquable du fait que les pays de l'Indo-Pacifique ne cherchent pas seulement à diversifier leurs relations avec les puissances militaro-industrielles régionales, l'Inde, le Japon ou la Corée du Sud, mais qu'ils regardent aussi vers l'Europe, une Europe incarnée par Emmanuel Macron. C'est ce que nous dit Emmanuel Véron, chercheur associé à l'INALCO et à l'École navale.
Si vous placez du point de vue vietnamien, philippin, indonésien ou singapourien, thaïlandais, tous parlent beaucoup d'Europe, tous ont besoin d'Europe, tous se disent il faut absolument diversifier nos partenariats, et notamment en direction de la France, des Britanniques, de l'Allemagne, etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui l'Europe, et j'inclus là-dedans les Britanniques, au regard des expériences tirées des premiers mois de l'administration Trump et de la rivalité sino-américaine, l'Europe aujourd'hui est une sorte de pôle de stabilité, notamment au regard du droit international, du respect des règles, du commerce international. Et cela, c'est une sorte de repère dans la tempête qui est tout à fait demandé par les pays d'Asie du Sud-Est.
Porte-voix de l'autonomie stratégique européenne, Emmanuel Macron prône en Asie une troisième voie. C'est un discours qui résonne dans ces pays qui misent toujours sur le multilatéralisme pour contrecarrer la loi du plus fort.
Carlotta Morteo, à la une en Asie. Merci beaucoup.
RFI Matin.
Et dans une heure, c'est un témoignage rare et poignant que vous fait entendre RFI, alors que le Hamas s'est dit hier soir insatisfait de la proposition américaine de cesser le feu acceptée par Israël. Arnaud Pontus a rencontré hier l'historien Jean-Pierre Filliu, professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris, expert de la bande de Gaza dont il a écrit l'histoire et qu'il connaît bien. Alors que l'accès à l'enclave est verrouillé, Jean-Pierre Filliu a pu y entrer en décembre dernier et publie un livre pour raconter le mois qu'il a passé sur place.
Je ne supportais plus de regarder ce drame de loin. Je ne supportais plus à titre humain, mais je sentais aussi que comme universitaire, comme chercheur, je perdais pied face à une réalité qui était en train de se transformer de manière aussi violente, aussi brutale, aussi systématique. Et c'est seulement sur place, malgré toutes les informations, documentations, photographies, statistiques que j'avais, que j'ai pu prendre réellement la mesure d'une telle démolition, de tel ravage.
Rien ne me préparait à ce que j'ai vu et vécu à Gaza. L'historien Jean-Pierre Filiu, grand invité international de RFI ce matin au micro d'Arnaud Pontus dans une heure. Son ouvrage « Un historien à Gaza » est sorti aux éditions Les Arènes cette semaine, 7h19 à Paris. Changer pour un jour le quotidien des enfants hospitalisés et ou porteurs de handicap. Dans notre reportage France ce matin, la journée de l'évasion organisée chaque année par l'association Premier de Cordée. La 11e édition s'est tenue mercredi dans l'enceinte du célèbre Stade de France, près de Paris, avec un thème, les super-héros, pour s'essayer à des activités sportives et pour rencontrer aussi des championnes et des champions. Reportage à Rambeng.
Ils sont contents parce que ça leur fait sortir de l'hôpital.
Aurélie, infirmière au service de pédiatrie à l'hôpital Raymond Poincaré en région parisienne, accompagne des enfants lourdement handicapés pour profiter de la journée évasion.
Ça leur fait voir un autre environnement et puis là c'est le Stade de France. Ils sont contents, quoi. Ils sont épanouis de cette journée.
Yousra Laghi, 12 ans, est en fauteuil roulant. Elle vient juste de remporter une partie de tennis. La belle prestation des champions paralympiques lors des JO de Paris 2024 a fait son effet chez elle.
Oui, vraiment. Et ils sont très très forts malgré leur handicap et c'est vraiment bien.
T'as envie de faire comme eux ?
Oui, peut-être j'y participerai à l'avenir.
Fanny Mérard, éducatrice spécialisée, accompagne Yousra et ses camarades venus d'Aulnay-sous-Bois. Pour elle, c'est important que des enfants malades puissent profiter de la journée évasion.
Oui, très important pour qu'ils puissent se sentir au même niveau que tous les autres joueurs et qu'ils puissent découvrir des sports qui sont adaptés à leurs besoins et pour qu'ils puissent un petit peu penser à autre chose que le quotidien. Et honnêtement, c'est un plaisir de les voir s'amuser, de sourire.
Au stand de football, des enfants ont eu la chance de jouer avec Arsène Wenger, ancien footballeur professionnel et parrain de l'événement.
C'est beau de voir leur bonheur et de les voir jouer, de pouvoir s'éclater ensemble. Et eux, ce sont les héros du jour parce qu'ils sont face très jeunes souvent à la maladie et de pouvoir en sortir, ils ont un esprit de combattant extraordinaire.
Pour le champion paralympique Kylian Portal, médaillé en natation aux JO de Paris 2024, il est important d'être là pour la transmission.
Je pense que c'est aussi dans notre devoir de transmettre aux jeunes, aux enfants qui ont des capacités réduites ou non. Hein. Voilà, y a plein de jeunes qui vont, je pense, avoir envie de continuer dans des sports. Ils vont découvrir des sports et je pense qu'il y en a certains qui vont vouloir s'inscrire, que ce soit du foot, du tennis de table, de l'escalade.
Membre de l'association Premier de Cordée, docteur Mathieu Pélanche est pédiatre et médecin du sport. Cette journée évasion peut, selon lui, créer des vocations.
On parle souvent en fait, du sport handicap, on en a beau encore plus parlé depuis les JO, mais là on sait que forcément ça peut créer des vocations chez certains jeunes qui, à l'inverse de se sentir pas capable, là vont se sentir capables de dépasser leurs limites.
Une impulsion qu'avaient déjà donné les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et qui perdure.
Notre reportage France signé Aram Beng à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Et sur RFI, chaque vendredi, nous répondons à vos questions sur le travail de nos rédactions. Pourquoi RFI dit ça? C'est avec vous, Juliette Rangeval. Bonjour.
Bonjour, Julien.
Vous nous emmenez cette semaine dans l'univers numérique de RFI sur les réseaux sociaux.
C'est un des lieux du débat, de l'engagement et bien sûr, les journalistes et les animateurs de RFI y sont présents. Vous-même, vous avez peut-être un compte Blue Sky, X, Instagram ou Facebook, vous y publiez du contenu, mais ce contenu est-il complètement privé ? Jean-Pierre Constantin, le médiateur de France Média Monde, est souvent saisi de cette question.
Est-ce que c'est la vie privée ? Est-ce que c'est la vie personnelle ? Est-ce que c'est la vie publique ? On peut se poser la question. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le public, lui, ne fait pas la différence. C'est-à-dire que le public, lui, quand il tombe sur le compte d'un journaliste ou d'un animateur de RFI, pour lui, c'est un journaliste ou un animateur de RFI.
Jean-Pierre Constantin, le médiateur de France Média Monde, un groupe qui réunit RFI, Monte Carlo, Doualia et France 24.
Juliette, aujourd'hui, vous revenez aussi sur la manière dont nous ferons vivre à nos auditeurs demain la finale de la Ligue des champions de football.
Commentaires, coulisses à côté, la rédaction est mobilisée pour vous faire vivre cette rencontre lors d'une soirée spéciale. Cédric de Oliveira sera à Munich où se déroule la finale et je lui ai demandé si quand on était un journaliste français, qu'on travaillait pour RFI et qu'on suivait le football comme il le suit, on arrivait à garder toute son objectivité ou si on laissait parler son cœur. Bref, est-ce qu'il soutient le PSG ?
C'est vrai qu'il y a une accointance particulière, d'autant que il faut dire aux auditeurs de RFI que nous sommes à Paris, en tout cas proche de Paris. Donc c'est vrai que je connais beaucoup le Parc des Princes, je connais beaucoup les acteurs du club, mais c'est vrai que il y a quelque chose de particulier. Après, c'est vrai que quand vous vous retrouvez à couvrir un match, vous êtes un petit peu rattrapé par la quête, en tout cas, d'être le plus objectif possible. Voilà, ça se voit un petit peu moins dans le commentaire parce que justement, vous êtes dans le direct, il y a des émotions et vous êtes porté par le public parfois qui vous transmet des choses, notamment sur un but au Parc des Princes. Mais dans le reportage, par exemple, ben voilà, on essaye un petit peu plus d'être objectif et notamment dans l'analyse aussi des enjeux du match ou voilà ce genre de choses.
Alors je ne sais pas quelle équipe vous soutenez vous, le PSG ou l'Inter Milan, mais la soirée spéciale c'est demain samedi à 19h temps universel. Et pourquoi RFI dit ça, c'est ce soir.
Et moi je ne dis rien. Pour fâcher personne. Merci Juliette Rangeval et je rappelle l'adresse mail pour vous écrire pourquoi@rfi.fr. Bientôt 5h30 en temps universel et dans moins de 5 minutes sur RFI, c'est un nouveau journal, un nouveau point sur l'info africaine. D'abord un peu de musique avec la Ghanéenne Florence Adaoni, un extrait de son nouvel album sorti cette année. Ça s'appelle Mampela Souré et c'est dans la sélection du mois de RFI.
Bimba de kidola mamdunia Mampela suru dola sale bagi kamina tibimba de kidola mamdunia La de la popela maraman La de la popela maraman Tino masana wo Yeme dana popela maratola na tino mtaba La de la popela maratola na tino Suru dola sale bagi kamina tibimba de kidola mamdunia Mampela suru dola sale bagi kamina tibimba de kidola mamdunia La de la popela maraman La de la popela maraman Tino msara wo Yemene la popela maratola na tino mtaba La de la popela maratola na tino mtaba Kimidana popela maratola na tino mtaba Kamila tibimba de kidola mamdunia Mampela puru dola sale bagi kamila tibimba de kidola mamdunia La de la popela maraman La de la popela maraman Tino msara wo Yemene la popela maratoda na tino mtaba La de la popela maraman La de la popela maraman Tino msara wo Yemene la popela maratoda na tino mtaba Kamina tibimba de kidola mamdunia Mampela suru dola sale bagi kamina tibimba de kidola mamdunia La de la popela maraman La de la popela maraman Tino msara wo
Florence Adaoni dans la sélection du mois de RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr et restez bien avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez, le journal dans une minute, à tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Nous vous proposons de réentendre l'émission Questions de femmes consacrée à l'hygiène intime pour conseiller et démentir les fausses croyances.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
C'est le grand soir, la finale de la plus belle des compétitions de clubs. Le PSG de Luis Enrique défie l'Inter Milan pour enfin écrire son nom au palmarès de la Ligue des Champions. Soirée spéciale sur RFI avec toute l'équipe du service des sports, des consultants, des envoyés spéciaux à Milan, à Paris et à Munich, lieu de cette finale. PSG Inter Milan, c'est à vivre ce samedi sur RFI à partir de 19h, temps universel.